Et par rapport au sondage qu'on vient d'analyser, il y avait une première question, je crois, qui concerne directement Pierre Moscovici, ministre de l'économie. On voit que 82% des Français se déclarent inquiets du déficit des finances publiques et de la dette publique. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour relancer la croissance, ils nous disent augmenter les petits salaires, mais aussi faire de l'innovation, de la recherche, baisser les impôts, faire la promotion des exportations. Enfin, les réponses sont assez variées. Je pense que vous êtes leur premier interlocuteur par rapport à ces préoccupations.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais d'abord, avant de répondre à la question et à quelques autres, vous remercier de m'avoir invité ici à ces journées économiques de Lyon. C'est ma première participation ici, au titre d'une table ronde dont le titre est ambitieux, puisque c'est « Peut-on prévoir les ruptures ?». Et en effet, la question qui m'est posée renvoie d'ailleurs assez directement à ce que je voulais dire. Nous sommes dans une période de crise, et j'ai le sentiment qu'il est impossible, en effet, de prévoir les crises. On ne peut pas la prévoir. Une crise, c'est toujours et avant tout une crise des schémas de prévision. En revanche, on peut interpréter les changements qu'elle porte. Et ce sont ces changements-là qui sont justement des ruptures. Et parmi ces ruptures, il y a en effet, je le crois, la prise de conscience du caractère insoutenable de la dette. Et c'est un des piliers de la politique économique que nous menons, et c'est une des deux ruptures sur lesquelles je souhaitais intervenir. Je pense en effet que nous sommes en un moment tout à fait crucial pour l'économie mondiale, l'économie européenne, l'économie française, et que nous sommes face à deux changements profonds, deux ruptures donc, de notre environnement économique auquel notre politique économique doit permettre de répondre, auquel elle veut répondre. La première rupture, on parlait tout à l'heure d'Europe, plutôt on disait qu'on en parlait trop peu, elle est au niveau européen et elle a un prolongement français, c'est la crise des dettes bancaires et souveraines qui a profondément déstabilisé la zone euro. Et dans la tâche qui est la mienne de ministre de l'économie et des finances, c'est un sujet qui prend énormément de mon temps, de mon énergie. J'ai regardé il y a peu de jours, ça représentait 30% de l'emploi du temps du ministre de l'économie et des finances aujourd'hui, ce qui est tout à fait naturel d'ailleurs. Et l'autre rupture, elle est plus nationale, c'est la dégradation de la compétitivité de la France. Et finalement, je suis content de m'exprimer devant vous, peu de jours, très peu de jours, deux jours après que le gouvernement est arrêté sous l'autorité du Premier ministre Jean-Marc Ayrault son pacte de compétitivité. Donc si vous le permettez, à partir de la question qui m'était posée, j'interviendrai quelques minutes sur ces deux ruptures fondamentales. La première rupture, c'est celle qui nous invite à tirer les leçons de la crise des dettes en Europe pour un grand chantier qui est achever la construction de la zone euro et rompre avec l'endettement. C'est la crise des dettes bancaires et souveraines qui, en réalité, a précipité la zone euro dans le moment où elle se trouve aujourd'hui. Et avec cette crise, les acteurs économiques, tous les acteurs, les États, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les entreprises, ont redécouvert que la dette des États pouvait être risquée, alors qu'il y avait un présupposé dans l'histoire économique récente qui était inverse, en tout cas pour les pays développés. Il y avait même une sorte d'accoutumance, de dopage, dirais-je, à la dette. Et les États n'ont pas su prévoir la crise des dettes souveraines. Les gouvernements en tirent aujourd'hui les conséquences que je crois absolument nécessaires en infléchissant très profondément leurs politiques économiques. Et c'est ce que nous faisons en France. Quand nous faisons le choix du sérieux budgétaire, il ne s'agit de rien d'autre que de vouloir renverser cette courbe infernale de la dette publique. Avec deux prises de conscience. La première prise de conscience, c'est la prise de conscience du caractère insoutenable des niveaux de dette et la nécessité de rompre avec les pratiques de l'endettement systématique qu'on a connues ces dernières années. Et si je parle de rupture profonde, c'est parce que les choix de stratégie budgétaire que nous avons faits diffèrent fondamentalement de ceux qui ont prévalu au cours de plusieurs décennies, en vérité. Et je dirais que nous sommes, pas seulement nous en France, mais dans une révolution copernicienne de la pensée économique et politique. En France, nous mettons un terme à la dérive de l'endettement, en tout cas nous voulons le faire, avec des choix très précis. Premier choix, c'est l'équilibre structurel des finances publiques à la fin du mandat. Il faut parvenir à zéro déficit structurel en 2017. C'est un engagement qui a été pris. Deuxième choix, c'est l'inversion de la courbe de la dette dès 2014. Et c'est la raison pour laquelle on parle souvent des 3% comme étant un diktat imposé de l'extérieur ou un chiffre sorti d'un cerveau fou sur un coin de table. C'est pas ça. Il s'agit bien d'inverser la courbe de la dette et il faut pour cela réduire nos déficits structurels. Troisièmement, c'est le partage de l'effort de redressement sur le quinquennat entre la baisse des dépenses publiques indispensables et la hausse des recettes. Et puis, c'est à partir de ce moment-là, d'autres chiffres qui doivent aussi s'inverser, la courbe du chômage évidemment, la reprise de la création d'emplois. C'est une politique qui demande des efforts, incontestablement, le chiffre est connu, 30 milliards d'euros, c'est l'effort qui est demandé pour permettre de réduire les déficits de 5% à 3% en un an, ce qui est une marche considérable, et elle est nécessaire en même temps, je crois qu'elle est crédible. L'enjeu, c'est de conserver la qualité de la signature de la France, c'est de faire en sorte que nous puissions continuer d'emprunter à des taux bas, et c'est de conserver, disons-le aussi, le jugement positif des institutions internationales. Je pense à la Commission européenne, qui a été sévère avec notre perspective de croissance, à mon avis de manière un peu excessive, je lui ai répondu d'ailleurs, mais qui en même temps a rendu hommage à ce que nous faisions pour réduire nos déficits. C'est le cas du Fonds monétaire international aussi, qui nous appelle à des réformes de structure. J'en parlerai, nous les faisons, c'est une attente légitime. Cette politique de réduction des déficits et de la dette, elle peut susciter des débats, je le comprends. Moi, je la crois évidemment solide, je la défends comme telle. Et surtout, j'ai une conviction absolue, et je la défends bec et ongle, c'est que la France serait pénalisée et peut-être sanctionnée si elle baissait la garde. Nous ne pouvons pas le faire. Moi, j'assume totalement ce choix du sérieux budgétaire. J'ajoute que je ne le crois en rien contradictoire avec des engagements politiques qui sont les miens depuis longtemps, je dirais, et des convictions de social-démocrate. Et c'est ce que j'essaye de défendre, et c'est ce que je défendrai. Je suis persuadé, et c'est aussi ce que disait votre sondage, que les Français ont compris l'enjeu du désendettement compétitif. J'ai été frappé de voir dans le sondage que plus de 80% de nos concitoyens s'inquiètent des niveaux de dette pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, la dette. Ils savent qu'au final, son remboursement est un impôt sur les générations à venir, sur leurs enfants. Ils ont aussi conscience d'autre chose, c'est qu'un euro en plus pour la dette, c'est un euro improductif, et c'est un euro en moins pour l'éducation, pour le service public, pour l'hôpital, pour la justice, pour la compétitivité, pour l'emploi, pour la santé de l'économie. Et cette prise de conscience-là, je la prends comme un encouragement à aller au bout de cet effort, à la fois juste et déterminée de redressement. La seconde prise de conscience à laquelle la crise des dettes souveraines a mené, elle n'est pas seulement française, elle n'a pas pour seule conséquence de nous inciter à réduire les déficits, elle est européenne. Elle montre les failles dans la construction de la zone euro, en tout cas, le mot faille est peut-être sévère, mais enfin, je le crois quand même juste, c'est manque. Une fois la crise identifiée, crise des dettes souveraines, il faut agir en cohérence. Et ça veut dire qu'il faut absolument découpler l'ancrage territorial des banques et leurs garanties par les États dont elles ressortent pour accroître la résistance au choc. Et c'est la raison pour laquelle la France se bat pour la réorientation de la construction européenne. Vous savez que ce gouvernement et le président de la République, François Hollande, ont proposé un pacte de croissance. Nous soutenons les initiatives de la Banque centrale européenne. Je pense qu'elle fait ce qu'il faut aujourd'hui pour redéfinir son propre rôle. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans ce qu'a dit Mario Draghi, ce n'est pas tel ou tel instrument qu'il met en place, c'est qu'il ait pu déclarer que la sauvegarde de la zone euro faisait partie de la mission de la Banque centrale européenne. Ce n'est donc plus uniquement la hausse des prix ou la lutte contre la hausse des prix, la lutte contre l'inflation, la stabilité des prix. C'est bien l'avenir même de la zone euro qui est au cœur de sa mission. Nous avons aussi fait adopter le traité sur la stabilité, la croissance, la gouvernance. Nous avons modifié très largement le pilotage de nos finances publiques. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais une loi qui est passée inaperçue, mais qui est fondamentale, c'est la loi organique sur les finances publiques, qui aura des conséquences dans l'avenir aussi importantes que la loi organique sur les finances publiques, la LOLF. C'est-à-dire que désormais, nous allons respecter des objectifs de déficit structurel et faire en sorte de contrôler les écarts et d'en tirer les conséquences, je dirais, de façon non pas automatique ou discrétionnaire, mais avec une très grande force. Nous avons poussé aussi, et nous poussons, beaucoup pour une mise en œuvre rapide et large de l'union bancaire. Et vous savez que grâce notamment aux efforts de la France, mais c'est un débat que nous menons avec nos partenaires européens, le cadre légal de la supervision bancaire sera adopté d'ici à la fin de l'année et la Banque Centrale Européenne pourra dès lors commencer à travailler concrètement à la mise en œuvre d'un dispositif de supervision intégré. Je veux vous lancer ici un message d'espoir dans l'Europe. Je crois beaucoup, en effet. C'est ce que disait François Hollande dans Le Monde et dans une série d'autres journaux il y a quelques jours, que le pire est passé. Ça ne veut pas dire que la crise est finie, mais ça veut dire que le doute sur l'existence de l'euro est derrière nous, qu'on commence à regarder, y compris de l'étranger et de loin, à nouveau l'Europe comme une terre d'investissement, une terre qui a un avenir. Et pour ça, ça suppose que dans les quelques semaines, les quelques mois qui viennent, nous parachevions la sortie de crise. Et je vois trois enjeux notamment. D'abord, trouver une solution pour la Grèce. C'est urgent. Ça doit pouvoir se faire dans les semaines qui viennent. Nous sommes au bord de le faire. Aider l'Espagne, si elle en exprime encore davantage le besoin. Et troisièmement, mettre en place la supervision bancaire. Ça, c'est une réforme fondamentale qu'on attend de nous, parce que c'est ce qui permet justement de casser ce lien entre les dettes bancaires et les dettes souveraines qui a précipité l'Europe dans la crise. Et si cela se passe ainsi, oui, je pense qu'on peut à nouveau reprendre confiance dans l'euro, confiance dans la zone euro, confiance dans l'Europe, et dès lors reprendre l'essor de nos économies. La deuxième rupture dont je voulais parler, c'est celle du recul de la compétitivité française, dont nous devons prendre la mesure, et c'est le pacte de compétitivité que nous avons adopté il y a deux jours. D'abord, des éléments de diagnostic. Vous savez, la politique est un art difficile et souvent ingrat. Et c'est vrai que quand on est au gouvernement, on a une tendance naturelle à penser qu'on est précédé par des incapables et qu'on va être suivi par des incompétents. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours faux non plus. Et c'est la raison pour laquelle il faut demander parfois des esprits éclairés qui ne sont pas au gouvernement de porter des diagnostics qui sont lucides et extérieurs. C'est ce que nous avons fait en demandant à M. Gallois, grand industriel, qui connaît admirablement notre économie, qui est un homme à la fois libre et engagé, engagé dans des combats républicains, engagé dans une certaine conception de la France, de porter un diagnostic. Et ce qu'il a fait est assez clinique. Et ce qu'il a montré, c'est que la situation s'est terriblement détériorée depuis 10 ans. Un chiffre, un seul, mais on le connaît par cœur. Mais à force de le répéter, il finit quand même par imprimer. La France a enregistré en 2011 un déficit commercial de plus de 70 milliards d'euros. Et ce sera à peu près le même en 2012. L'Allemagne a dégagé, elle, un surplus de 158 milliards d'euros. Alors que nous avons la même monnaie, que nous traversons la même crise, que nous sommes dans les mêmes difficultés et que nous sommes dans le même espace économique. C'est dire qu'il y a un décrochage de la France par rapport à l'Allemagne. Et c'est dire aussi que nous avons à apporter des remèdes structurels. C'est une mue de notre économie qu'il faut piloter, ou peut-être pas piloter, c'est peut-être pas le bon mot, impulser en tout cas. Et c'est ce que nous voulons faire, et nous ne pouvons pas le faire avec les choix d'hier. Vous connaissez les mesures qui ont été prises par le gouvernement il y a deux jours, je ne vais pas y revenir, j'aurai peut-être l'occasion de le faire dans le débat. Je veux clarifier simplement en quoi le pacte de compétitivité décidé il y a deux jours, marque un changement fondamental par rapport aux choix qui ont prévalu jusqu'à présent. D'abord, et les mots ont un sens, c'est vrai, on a eu ce débat avec Louis Gallois, débat cordial, débat franc aussi, c'est un pacte et c'est pas un choc. C'est pas un choc parce que nous ne voulions pas rajouter un choc au choc. Dès lors que nous demandons aux Français des efforts considérables, aussi bien aux dépenses publiques qu'aux ménages et aux entreprises, pour redresser les comptes en 2013, il ne nous semblait pas qu'il fallait faire en sorte d'opérer une nouvelle ponction massive sur le pouvoir d'achat. C'est une question qui est une question de justice. Vous parliez des petits salaires. On ne peut pas à la fois relancer l'économie par les petits salaires et ponctionner le pouvoir d'achat des couches moyennes et populaires. Et les entreprises, on peut avoir ce débat éternel entre ceux qui sont keynésiens et les autres, mais enfin, elles ont besoin de voir leur offre encouragée, mais aussi leur demande stimulée. Et le pouvoir d'achat, c'est la demande, c'est la consommation, c'est ce qui s'adresse aux entreprises. Et c'est la raison pour laquelle nous avons préféré, c'est vrai, une approche un peu plus gradualiste et respectueuse du pouvoir d'achat. Ensuite, je voulais vous dire que l'impulsion fiscale qu'il donne, ce pacte, pour alléger le coût du travail de 20 milliards par an, en 3 ans, à travers un mécanisme qui a été déjà popularisé, c'est le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, n'est que le point de départ d'une transformation que nous voulons opérer sur la compétitivité du pays. Ça ne doit pas être conçu comme un point d'aboutissement. Un levier fiscal, ça peut servir de catalyseur, ça peut déclencher quelque chose, ça peut aider à mettre en place une dynamique positive, ça peut débloquer des décisions d'embauche et d'investissement. Et c'est ce que veut faire ce crédit d'impôt. L'idée, c'est qu'il puisse, dès 2013, je dis bien dès 2013, créer des décisions d'investissement et d'embauche avec un effet correspondant à une baisse effective de 6% du coût du travail. C'est une créance qui sera tout de suite prise sur l'État et qui, à travers le mécanisme du crédit d'impôt, elle, sera financée en 2014. Je pense que c'est un mécanisme puissant, 20 milliards d'euros. Je le crois simple, parce qu'un crédit d'impôt, les entreprises connaissent, c'est ce qui existe avec le crédit d'impôt de recherche. Il a un effet immédiat. Il agit sur la compétitivité et sur l'emploi, parce que nous l'avons ciblé assez large, de 1,25 SMIC. Certains disaient plus pour viser uniquement l'industrie, d'autres disaient moins pour viser uniquement l'emploi. Là, il y a 85% des salaires qui sont concernés et 83% dans l'industrie. Et donc, on doit avoir un effet à la fois sur l'industrie, c'est pas un gros mot, Anne, pour le gouvernement, qui veut au contraire muscler l'appareil productif, et sur le secteur des services, qui d'ailleurs est lui-même inclus largement dans l'industrie. Je pense que c'est une distinction qui est parfois un peu artificielle. Le pacte repose aussi sur un principe que je n'appellerai pas, moi, donnant-donnant, mais je dirais plutôt gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des contreparties. Sans être exhaustif, je veux dire ce que le gouvernement demandera, et c'est légitime, aux entreprises en contrepartie des efforts qu'il est prêt à consentir sur le coût du travail, qu'il fait. Ça a pu surprendre, mais nous l'assumons. Il y a un problème de coût du travail en France. À quoi cela aurait-il servi de le nier? Et dès lors qu'il existe, il fallait l'affronter, le mesurer, l'évaluer, puis ensuite y répondre. Mais les contreparties, je pense qu'elles devront intervenir en matière de civisme fiscal. Ça paraît naturel de dire ça, mais nous voulons mettre en place un grand plan de lutte contre la fraude fiscale. En matière de gouvernance, concernant la représentation des salariés, le rapport Gallois insiste sur ce point et il a raison. En matière de rémunération, il y a déjà eu des réflexions qui ont été menées, par exemple, par la FEP et le MEDEF, un code de bonne conduite, est-ce qu'il faut s'en contenter, est-ce qu'il faut aller plus loin? Mais il y a évidemment une perception dans l'opinion qui est celle d'hyper-inégalités qui ne peuvent pas s'accroître davantage, et surtout en matière d'investissement et d'emploi. Moi, je suis frappé par le fait qu'on nous dit « mais c'est bien votre truc, mais est-ce que ça va servir aussi à des entreprises qui n'investissent pas, qui n'embauchent pas ?» Je crois que c'est très compliqué de mettre en place des dispositifs contraignants ou qui mettent en place des contrôles qui sont trop stigmatisants et qui peuvent être pénalisants. En même temps, il faut bien qu'il y ait un suivi de cette affaire. C'est pourquoi ce suivi doit être assuré dans l'entreprise par les institutions représentatives, du personnel aussi, et au niveau national par un comité de suivi. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce pacte, c'est un effort collectif, c'est pas un acte unilatéral du gouvernement. Une décision octroyée, ça ne marche pas. Une décision imposée, ça ne marche pas. Et j'ajoute, évidemment, que le coût du travail n'épuise pas le thème de la compétitivité. C'est ce qui différencie aussi notre stratégie d'un simple choc. Et de ce point de vue-là, le rapport Gallois, comme les mesures de gouvernance, sont un ensemble. C'est pas une mesure, même si c'est naturellement celle dont on parle. C'est celle qui était le plus attendue, c'est celle qui était le plus commentée. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose sur le coût du travail? Oui. De combien? De 20 milliards? En combien de temps? En 3 ans? Et comment ça marche? Ça, c'est naturel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a 35 mesures dans ce que nous avons arrêté, qui sont des mesures qui ont un objectif, qui est de favoriser la montée en gamme de l'industrie française, qui est de lever les obstacles à l'innovation, qui est de lever les obstacles au financement, parce que beaucoup d'entreprises souffrent de difficultés de financement, Ce sera notamment le rôle de la Banque publique d'investissement qui sera effective au 1er janvier, qui sera la banque des régions, de territoires comme celui-ci, qui sera la banque des PME, d'entreprises comme celles qui sont représentées ici, qui sera une banque qui visera à faire en sorte que les ETI montent en gamme, elles aussi, grandissent. Quand on se compare à l'Allemagne, c'est le chaînon manquant, au fond, dans notre tissu productif. Nous avons beaucoup de petites entreprises, de très grande qualité, nous avons des leaders mondiaux, et nous avons beaucoup moins d'entreprises de taille intermédiaire, exportatrices, innovantes et créatrices d'emplois qu'en Allemagne. Et c'est pour ça que, en effet, la réforme du financement est une réforme tout à fait importante. Je cite quelques exemples de mesures que nous prendrons. L'action de la Banque publique d'investissement doit permettre de dégager 500 millions d'euros de crédits à court terme pour les PME tout de suite, le 1er janvier. Cette banque publique d'investissement, elle doit aussi disposer de nouveaux instruments pour intervenir pour les fonds propres. Il y aura 2 milliards d'euros de capacité d'intervention supplémentaire issue du programme Investissement d'avenir. Et tout ça avec un objectif, c'est de canaliser l'épargne des Français qui est abondante vers l'économie réelle. Nous n'avons pas de problème d'insuffisance d'épargne, nous avons un problème d'orientation de l'épargne. C'est la raison pour laquelle il faudra aussi aller vers une réforme de l'épargne elle-même, de l'épargne financière, pour l'orienter vers des produits qui soient des produits plus longs, notamment vers l'investissement en actions. Je parle ici à Lyon, et on sait qu'il y a ce besoin tout à fait massif. Et puis, il y a tout ce qui concerne effectivement l'innovation. C'est la raison pour laquelle nous avons sanctuarisé le crédit d'impôt recherche dans le projet de loi de finances. C'est la raison pour laquelle nous l'avons étendu aux dépenses d'innovation des PME-PMI. Enfin, dernière chose, et je m'arrête là, mais je voulais insister sur cette rupture que ça représente pour un gouvernement français en plus de gauche, de prendre des mesures fortes pour la compétitivité. Ce pacte sera financé par une baisse des dépenses des administrations publiques combinée à un effort fiscal qui sera différé, juste, modulé, et non pas par une hausse massive et indiscriminée de la TVA. Moi, j'ai poussé pour que la baisse du coût du travail soit avant tout financée par une baisse de la dépense publique. Je pense que dès lors qu'on demande un effort aux Français, la dépense publique n'a pas à être à l'écart. Simplement, je veux ajouter deux choses là-dessus. La première, c'est que ça ne peut pas être un effort uniquement budgétaire. La technique budgétaire, ça ne marche pas, ou en tout cas, ça ne suffit pas. On ne peut pas imposer des coupes sombres. Tirons les leçons, par exemple, de la RGPP. Ce n'était pas du tout un effort inintéressant, mais il a été vécu par les acteurs eux-mêmes comme indiscriminé, comme aveugle. Ce n'est pas comme ça qu'on doit pouvoir faire des efforts substantiels. Il faut aussi sortir d'une approche trop épaisse de l'affaire. Il faut un véritable pilotage du changement des administrations publiques. C'est ce qu'ont fait d'autres pays avant nous. Je pense à la Suède dans les années 90. Et on peut le faire dans le dialogue avec les agents publics, en respectant les agents publics. Mais il faut des réorganisations très profondes. C'est ce que nous ferons. C'est ce que nous engageons. Et puis, enfin, il y a le fait qu'il faut financer cela par d'autres formes de fiscalité. Et nous avons choisi, vous le savez, une modulation de la TVA, une augmentation limitée, du taux majoré, 0 de 4 points, une augmentation raisonnable des taux intermédiaires. Je précise tout de suite pour la restauration, le bâtiment, que d'abord, on peut avoir une discussion sur le périmètre des taux. Et deuxièmement, que dans le même temps, ce secteur bénéficie pleinement des contrats de génération et des crédits d'impôt. Et donc, il n'est pas question qu'il y ait des perdants dans cette affaire. Et enfin, en diminuant le taux minoré à 5%. Il faut se consacrer maintenant à la mise en œuvre de ce pacte. C'est le rôle du gouvernement, c'est ce que je fais ici en m'exprimant devant vous notamment, en allant à Dijon tout à l'heure pour présenter aux collectivités locales de nouveaux outils de financement. Elles en ont besoin. Après, la solution que nous avons trouvée cette nuit, enfin, sur le problème de Dexia, qui nous empoisonnait depuis un certain temps, c'est pas encore tout à fait résolu, mais enfin, on a quand même beaucoup avancé. Et c'est ce que nous devons faire avec les partenaires sociaux. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre va recevoir les partenaires sociaux la semaine prochaine. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas quelque chose qui est un choc, ce n'est pas quelque chose qui est octroyé, c'est un pacte, ça suppose une concertation, ça suppose un dialogue et ça suppose une mobilisation. Voilà ce que je voulais vous dire pour peut-être apporter ma pierre avant d'y participer à la table ronde sur les ruptures. En 6 mois, ce gouvernement a destiné un triptyque. celui du sérieux budgétaire, indispensable à notre crédibilité. Celui de la construction européenne. Moi, j'ai une conviction très forte, chevillée au corps là-dessus. Je sais que l'Europe que j'aime est devenue pour beaucoup un problème et non pas une solution. Et que la tâche de ceux qui gouvernent aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur du legs des pères fondateurs et de faire en sorte que l'Europe apparaisse à nouveau comme une perspective d'espoir. Et d'abord stabiliser la zone euro, puis ensuite approfondir l'union, l'union bancaire, l'union monétaire, l'union financière et in fine l'union politique. Moi, je n'ai pas peur de parler de ça, je crois que nous en avons besoin. Et puis, le troisième élément du triptyque, le troisième pilier, c'est la compétitivité. Il faut pour faire tout ça beaucoup d'énergie, de travail, de courage. Moi, ce que je souhaite, c'est que notre pays, et des journées comme celle-ci peuvent y concourir, évidemment, se mobilise autour d'une approche qui est à la fois difficile et ambitieuse. Vous savez, le temps des confrontations démocratiques, il vient à son heure. Il est venu hier aux États-Unis pour Barack Obama. Il reviendra en France dans 4 ans. Il a 4 ans de plus, nous avons encore 4 ans. Ça laisse du temps pour agir. Et je sais, évidemment, qu'un gouvernement, au final, il est jugé sur ses résultats. C'est la raison pour laquelle, moi, je souhaite que le pays, maintenant, dans toutes ses forces, les forces sociales, les entreprises, les acteurs politiques eux-mêmes, se disent qu'il y a d'abord un effort de redressement à conduire. Moi, j'appelle à cet effort de toutes les forces de la France pour sortir de l'ordinaire, pour retrouver la confiance, pour redresser la croissance, pour recréer de l'emploi. C'est l'ambition qui nous anime. C'est une ambition que je ne crois ni médiocre ni mince. Elle mérite d'être partagée. Cela dit, sans préjuger des convictions de quiconque, ni ici ni ailleurs. Et j'appelle à considérer cet effort pour ce qu'il est, une cause qui mérite la mobilisation. Et des ruptures. Merci.
Merci, Monsieur le Ministre, pour ce propos liminaire, cette présentation très intéressante de la problématique actuelle du gouvernement et effectivement dans une actualité chaude, dans une actualité forte.